Vie+, sans ses convictions, une émission en partenariat avec Vie+, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de Vie+, Sens et Conviction, un magazine préparé avec les équipes de Vie+. Vous le savez, l'ambition de cette toute nouvelle émission, c'est avec nos invités de parler des placements et de leur utilisation, l'utilisation de l'épargne sous l'angle du sens, car oui, les Français sont de plus en plus convaincus qu'ils doivent donner du sens à leur épargne. 6 Français sur 10 déclarent d'ailleurs accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement financier. Alors, comment épargner en restant en cohérence avec ses valeurs et ses convictions? C'est le thème du jour. Est-ce qu'il faut se fier aux labels? Lesquels privilégier? Quels produits? Quels sont les fonds qu'on peut choisir pour bien démarrer? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Valentin Vigier. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Vous êtes analyste ISR, investissement socialement responsable à la Financière de l'Échiquier. Caroline Boire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la recherche financière extra-financière d'Arkea Investment Services.
C'est ça.
Et enfin, Anne-France Gauthier. Bonjour Anne-France.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va?
Très bien, merci.
Bon, directeur commercial de Vie+, donc, sur notre plateau aujourd'hui, comment on épargne en cohérence avec ses valeurs et ses convictions. Vie+, sans ses convictions, c'est parti.
Vie+, sens et conviction.
Alors, on va tout de suite décrypter, chers amis, certains acronymes. ESG, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. ISR, investissement socialement responsable. Les fonds à impact. On a vraiment l'impression, Anne-France, je démarre avec vous, qu'il y a une lame de fond qui est en train d'arriver et que là, voilà, il faut que chaque type de gestion mette son petit grain d'ISR, d'ESG. On a l'impression qu'il n'y a plus un produit qui sort sans qu'il y ait ce fameux label. Qu'en pensez-vous?
Alors, déjà, nous avons des obligations, puisqu'en tant que compagnie d'assurance, nous sommes soumis à un certain nombre d'éléments qui doivent être ISR et ESG. Et le 10 mars dernier est arrivée la partie disclosure qui nous permet et qui nous force, en fait, à communiquer aux autorités de tutelle où nous nous situons dans nos propositions d'investissement pour mettre à disposition des CGP des solutions, justement, qui vont correspondre aux valeurs de leurs clients, et puis à l'ISR et à l'ESG. Donc, au-delà de l'accélération que nous avons connue en 2020, il y a effectivement une prise de conscience au niveau des différents gouvernements. J'imagine que ça n'a pas lieu qu'en France, hein, puisque là, c'est une directive européenne, de façon à ce que nous n'investissions plus dans n'importe quoi et nous n'investissions plus dans des solutions qui ne correspondent pas à la préservation du climat, de la planète, à des gouvernances normales dans les entreprises.
Bon, ça, c'est plutôt très positif, hein. C'est peut-être mieux d'investir dans des placements non seulement qui font du sens, mais aussi qui font du bien à la planète. J'ai une question pour nos experts. Caroline Imbert, jusqu'ici, on a l'impression que c'était une logique d'exclusion. Je m'explique, c'est-à-dire que les gestionnaires de fonds devaient enlever de leur portefeuille les grands méchants pollueurs, les cigarettiers, peut-être les industries du charbon, bon, les mines évidemment. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on va beaucoup plus loin et que ces critères se sont affinés.
Alors oui, c'est vrai, il y a une pratique d'exclusion qui est assez répandue. C'est pas tout à fait, j'allais dire, l'orientation qu'on a prise au niveau d'AIS, puisqu'on essaye de privilégier l'engagement. Investisseurs responsables, pour nous, c'est aussi accompagner nos parties prenantes dans la durée pour les aider à faire leur transition. Et d'ailleurs, au niveau du groupe, il y a une raison d'être qui a été définie et 2 transitions prioritaires que sont la transition environnementale et la vitalité des territoires. Transition environnementale, donc effectivement tout ce qui est autour du climat et on verra aussi la biodiversité. La vitalité des territoires, c'est l'emploi, c'est l'éducation, la santé. Donc il faut aller au-delà. Alors, l'exclusion, on en fait tout de même. Le charbon, vous le citiez, on l'a mis en place en 2019. On est plus exigeant aujourd'hui parce que c'est aussi les engagements de la France. C'est l'engagement de notre maison mère, Arkea, de s'arrêter en 2030. Mais au-delà, on a plutôt eu tendance donc à faire de l'engagement. Et peut-être on pourra en reparler de façon plus significative. Et peut-être l'engagement qui a été le plus visible qu'on ait fait dernièrement, c'était à l'Assemblée générale de Total l'année dernière avec 11 autres investisseurs. Alors c'est vrai qu'on représentait peut-être 1,6, 1,7% du capital, mais on avait récolté près de 17% des votes à l'Assemblée générale. Et qu'est-ce que c'était que cette résolution ? C'était demander à Total d'aller plus loin dans ses engagements en faveur du climat.
Est-ce que vous êtes justement écouté par ces grandes sociétés ? Parce que vous parlez d'1,6, alors c'est évidemment, ça représente quelques centaines de millions d'euros, voire des milliards parfois, mais est-ce que justement, les actionnaires principaux ou le président du conseil d'administration, pour le coup, Patrick Pouyanné, il vous écoute, il vous entend.
Alors c'est vrai que quand on pèse plusieurs centaines de milliards d'actifs sous gestion, on est probablement plus écouté. Après, l'engagement, il existe pas seulement au niveau actionnarial au sens droit de vote. Nous, il existe aussi sur le fixed income, sur la dette obligataire. Parce que quand un émetteur va venir au refinancement ou émettre une dette, finalement, il a besoin des investisseurs, que les investisseurs l'accompagnent dans la durée. Et quand on s'engage, c'est quand même pour un certain nombre d'années. Et on parle de l'assureur. L'assureur, il fait du buy and hold, donc il garde assez longtemps. Mmh. Donc c'est quand même clé d'avoir ce mode d'engagement et ce mode auprès des émetteurs. Et oui, on a régulièrement des engagements et des échanges avec des émetteurs pour les faire progresser sur certains piliers.
Ça veut dire que vous avez du coup un pouvoir de décision, même avec une toute petite partie du capital. Enfin, en tout cas, vous pouvez peser dans la balance, Valentin Vigier.
Et exactement. Je pense que quand on parle investissement responsable, investisseur responsable, il faut distinguer deux choses. La première chose qu'on fait, c'est avant tout d'abord dans l'analyse. Donc c'est ce qu'on appelle donc l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. On va regarder les externalités positives et négatives des entreprises qu'on va prendre en compte dans l'analyse. Et ensuite, en fonction de la charte du fonds, on va plus ou moins l'intégrer dans la construction du portefeuille. Et ensuite, le deuxième pilier, c'est donc l'engagement. On est tout à fait d'accord, que ce soit à travers le vote ou justement rentrer en dialogue avec les émetteurs pour essayer d'améliorer les pratiques. Donc, par exemple, nous, ce qu'on fait particulièrement à la financière de l'échiquier, c'est après l'analyse extra-financière d'un émetteur, le gérant ou l'analyste va déterminer des axes de progrès, d'amélioration qu'il va identifier et qui vont être particuliers sur le cas d'investissement. Et ensuite, il va les partager avec l'entreprise. On va pouvoir discuter dessus. On est ouvert au dialogue et on va suivre dans le temps justement l'évolution de ces pratiques et continuer à dialoguer pour s'assurer qu'ils s'améliorent.
Pour bien comprendre, ça veut dire que vous interdisez pas du coup de monter dans une valeur peut-être qui a des progrès à faire, mais à condition justement qu'elle suive ses pratiques, qu'elle améliore finalement ses pratiques.
Exactement, voilà. Donc, parce que souvent, ce qu'on peut dire, c'est que dans la logique d'exclusion, on laisse un petit peu, justement, donc, peut-être des investisseurs qui sont moins regardants sur ces questions, dialoguer avec les entreprises. Alors que c'est vrai que quand on rentre dans une démarche d'engagement et qu'on discute, on va pouvoir les accompagner et leur faire des propositions d'amélioration sur ces sujets, comme par exemple la sortie du charbon.
Et est-ce qu'il y aura sanction du coup si c'est pas respecté un an après, deux ans après est-ce que vous pouvez dire, là, voilà, on vous avait proposé certains actes, c'est pas suivi, on vous sort finalement du scope ?
Oui, nous avons une politique effectivement d'engagement et on a défini un espace-temps, je veux dire, parce que entre le moment où vous contactez donc le management du société, vous leur dites voilà, on aimerait que vous amélioriez sur telle et telle pratique, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut d'abord définir quels indicateurs seront à suivre pour montrer cette amélioration. Il faut le temps de les collecter, de communiquer. Notre politique, elle s'étale sur 18 à 24 mois.
Ouais.
C'est un espace-temps qui est plus long. Mais c'est intéressant aussi, c'est que, et vous le mentionniez, c'est finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on essaye d'avoir une vue prospective. La performance financière, c'est quelque chose qu'on essaye de prédire, mais la performance extra-financière, en fait, c'est clé. Si nous avons cette conviction que les deux sont intimement liés, la performance extra-financière pourra être source de performance financière. Donc, ça ne sert à rien de regarder quelles étaient les notes, quelles étaient exactement les mesures en place dans le passé, mais vraiment essayer justement d'inciter l'entreprise à faire mieux. Et pour le gérant, finalement, c'est essayer de surfer sur cette vague d'amélioration.
Ouais, d'autant, Valentin Figé, que vous l'expliquez très bien, c'est vrai que vous êtes souvent face à des paquebots, c'est quand même des investissements de plusieurs millions, voire centaines de millions d'euros. On ne change pas, on ne sort pas du charbon comme ça, on ne bascule pas pour les pétroliers à des énergies nouvelles. Donc il faut les accompagner aussi dans la durée, j'imagine.
Voilà, et donc pour ça, on a plusieurs outils, notamment dans l'engagement. Et quand vous disiez justement, on peut faire évoluer dans ce qu'on appelle une procédure d'escalade. Donc on commence par identifier justement des axes de progrès. On peut ensuite justement participer, donc quand on participe et qu'on vote aux assemblées générales. On peut également ce qu'on appelle les engagements collaboratifs, c'est-à-dire qu'on s'associe à d'autres ACN managers qui ont la même vision que nous sur tel et tel sujet et qui va permettre justement d'avoir peut-être plus de poids quand on discute avec les sociétés pour les faire évoluer.
Vos investisseurs, justement, aux uns aux autres, ils vous demandent des comptes aussi. Ils vous disent, est-ce que vous avez été suffisamment actif? Est-ce que vous avez une obligation, après, je ne sais pas, d'émettre un rapport, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on a fait, voilà les résolutions qu'on a votées?
Oui, c'est important. Je pense que même dans la société en général, les consommateurs regardent de plus en plus la provenance des produits, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est la même chose pour les produits financiers. Et donc, la transparence qu'on demande en fait aux entreprises dans lesquelles on investit, on doit se l'appliquer à nous-mêmes. Et donc, on a beaucoup de reporting là-dessus à la Financière de l'Échiquier qui sont disponibles sur le site internet publiquement, que ce soit de la documentation sur nos méthodologies. Comment on fonctionne, comment on fait de l'investissement responsable à travers le code de transparence, la politique de vote et d'engagement pour justement mettre en avant nos positions sur les différents sujets de l'investissement responsable. Et ensuite, on va aussi reporter sur ce qu'on a fait à intervalles réguliers, donc que ce soit dans les reportings mensuels avec reporting financier et extra-financier, mais également tous les ans, on publie notamment par exemple notre rapport de vote et d'engagement qui va relater à travers des exemples les positions qu'on a prises durant les assemblées générales et les engagements qu'on a pris avec les sociétés.
Anne-France Gauthier, justement, chez les clients Viplus, on a une appétence ou constaté une appétence pour ces produits là depuis quelques années. Il y a une espèce de bouillonnement. Est-ce que ça se traduit dans les chiffres?
Alors, ça se voit tout à fait dans les chiffres. On a en fait une clientèle qui, avant sans doute, s'identifiait par des éléments vestimentaires ou par des modes de consommation. Et aujourd'hui, ça va effectivement jusque dans l'investissement, en particulier sur les nouvelles générations, donc ceux qui commencent à épargner, on va dire les millennials.
Alors les millennials, ils ont peut-être pas encore trop d'argent.
Si, parce que les millennials, c'est plutôt après 30 ans, donc il y a quand même un petit début d'épargne. Et en fait, ils sont très très attentifs à ça. Ils ne veulent pas être en contradiction avec leurs valeurs. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ils nous demandent pas mal de décryptage, effectivement. Ils veulent vérifier que ça va être socialement correct, qu'il y a un impact sociétal, parce que au-delà de l'ISR et l'ESG, on parle beaucoup de gestion à impact maintenant. Donc au-delà de ça, quel impact positif l'entreprise qui sera dans un OPC pourra démontrer, que ce soit sur le climat, sur la planète ou dans un engagement sociétal quel qu'il soit.
Si vous me permettez l'analogie, j'ai l'impression que c'était un peu des aficionados, un peu comme la bio ou les produits bio il y a quelques années. Bon, c'était quelques personnes qui allaient dans certains magasins, et puis aujourd'hui c'est devenu mainstream. On a l'impression que c'est un peu pareil pour les produits financiers justement à impact ou qui font du sens. Alors, il n'y a pas effectivement de Nutri-Score pour le coup pour les fonds. Donc vous savez, cette catégorie ABCD. En revanche, il y a de plus en plus de labels. Alors je vous les cite. Hein, on a Greenfin, Finansol, on a ce dont je parlais. On parle maintenant du label Relance. On a une explosion comme ça des labels. Carole Imbert, on a l'impression que voilà, comment on se fait pour s'y retrouver dans la jungle des labels? Lequel il faut suivre finalement?
Alors, moi, je dirais, il y avait le premier étage de la fusée, si on parle effectivement l'intégration ESG. Et c'était déjà de structurer, en fait, l'analyse des émetteurs. Ils sont venus par là-dessus, donc, un certain nombre de labels. Le label, aujourd'hui, en France, il y a le label ISR. Et vous regardez, on parle des attentes des investisseurs, mais il y a aussi toute la pression réglementaire qui est très forte. La doctrine 2020-03 de l'AMF. C'est quand même très proche du référentiel du label ISR. Donc ça permet aussi peut-être de donner encore plus de poids à ce label. Le label Greenfin, effectivement. Et puis il y a les labels étrangers. Mais après, il faut essayer de surfer ou de naviguer entre les autorisations des autorités de marché et puis ce qu'on peut faire quand on vend un produit en France. Nous, dans nos choix, nous avons labellisé de plus en plus de fonds à la fois chez Fédéral Finance Gestion et commencé à faire des labellisations chez Schellcher-Prin Gestion, parce que c'était aussi une attente de nos clients, mais aussi, quelque part, c'était l'aboutissement ou en tout cas une nouvelle étape dans notre démarche. Il y a effectivement l'impact. l'impact derrière. L'impact, ce n'est pas forcément être sur tous les piliers. Mmh. Ça peut être un choix spécifique. On est en train, par exemple, de développer un fonds à impact plutôt social, donc fédéral emploi France. L'idée, c'est bien sûr d'aller chercher les entreprises, pas seulement françaises, mais en tout cas qui créent de l'emploi en France. On a un mandat d'arbitrage, donc... fédérale conviction territoire, où là aussi, c'est bien l'emploi dans les territoires, pas que des grandes entreprises, mais aussi aller financer des plus petites entreprises. Et ça, j'allais dire que c'est aussi très lié aux outils dont on dispose. Parce que finalement, aller trouver bien les entreprises qui créent de l'emploi en France, si vous regardez les rapports annuels des sociétés, il n'y a pas toujours marqué exactement cette granularité. Donc ça nécessite d'avoir des outils aussi pour aller plus loin dans notre gestion, aller vers l'impact par exemple.
Bien sûr. Chez Financière de l'Échiquier, pareil, justement au niveau de ces labels, est-ce qu'il y en a un que vous privilégiez ?
Je pense qu'effectivement, la réglementation et les labels, ça amène plus de transparence et c'est important parce que c'est ce qui va amener la confiance des investisseurs. Donc, à la Financière de l'Échiquier, on accroît tous les ans l'encours qu'on a en fonds labellisés. On a 9 fonds labellisés aujourd'hui, du label d'État français, le label ISR. Mais on a également des fonds qui sont labellisés par des labels étrangers comme le label belge ou le label allemand. Et je pense que voilà, c'est vraiment un gage de qualité qu'on recherche et qui est recherché par les clients de plus en plus. Et on a également donc, des fonds impact, donc on renforce un petit peu l'exigence de nos produits et on en lance de nouveaux. On a notamment nous lancé un fonds plutôt avec impact écologique pour accompagner la transition écologique en Europe qui s'appelle Échiquier Climate Impact Europe.
D'accord. Oui, tout le monde en France a dégainé un petit peu son fond là depuis quelques années, se targue effectivement de laver plus vert que vert, j'allais dire. Est-ce qu'on peut se méfier aussi d'un certain greenwashing, de certains qui prétendent, voilà, qui se mettent dans cette mouvance, ou c'est opportuniste ?
Alors, j'ai l'impression que le greenwashing, c'était plutôt avant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce fameux label ISR qui est un label gouvernemental. Et les sociétés essayaient de dire qu'elles étaient mieux que les autres, bon, qu'elles étaient plus vertes, plus responsables, etc. Je pense que au-delà de ça, on a eu en 2019 une jeune femme qui s'appelait Greta, qui a beaucoup accéléré la prise de conscience. Et puis on a eu cette année 2020, qui pour moi est vraiment l'année de tous les dangers pour les sociétés qui n'acceptaient pas de rentrer dans ces problématiques-là, parce qu'en 2020... D'un seul coup, on s'est posé plus de questions, etc. Et on s'est dit, en fait, on ne veut plus continuer comme ça. Donc, il y a des gens qui ont changé de vie complètement. Il s'est passé énormément de choses. Et au niveau des investissements, des sociétés de gestion, etc., on se rend compte, en fait, que le monde dans lequel nous étions allait un peu dans le mur, allait un peu à la catastrophe, sur plein de petits niveaux. Mais en attendant, c'est pas possible de continuer comme ça. Et le label territoire est quelque chose de très très important parce qu'il ne faut pas que les territoires soient abandonnés. On ne peut pas faire confiance qu'à des grosses entreprises, c'est pas possible parce que le maillage, et en particulier en France, c'est énormément de PME, c'est énormément de petites structures, c'est ça qui est le dynamisme français. Donc je trouve que ces labels sont importants et bien au-delà du greenwashing, je pense que c'est une vraie prise de conscience qui aujourd'hui est traduite dans ces fonds.
Et pour Arkéa, je crois que le territoire qu'on aide en priorité, c'est bien sûr la Bretagne.
Mais oui, c'est vrai. Mais c'est tout le Grand Ouest aussi. Et puis quand même présence...
qui est déjà très dynamique, un bel terrain d'entrepreneurs. Il y a une question qui revient quand même dans la bouche de ceux qui nous écoutent et les conseillers en gestion de patrimoine ou leurs clients. C'est ce rapport avec la performance. Parce qu'on peut imaginer que celui qui va souscrire va dire « Ok, c'est bien beau, mais est-ce que ça rapporte ? » Est-ce qu'il y a toujours cette opposition entre performance financière et le fait de participer à quelque chose de bon pour la planète? Est-ce qu'on peut réconcilier justement, comme c'est le thème du sujet, ses valeurs, ses convictions et aussi une certaine performance financière?
C'est un grand oui, c'est un grand oui, bien sûr. Et après, c'est peut-être, je disais tout à l'heure, pas forcément un même espace-temps, mais aujourd'hui, un émetteur, et je parle plutôt côté dette puisque c'est plus notre tropisme, mais un émetteur qui vient sur les marchés, si il coche pas quand même un certain nombre de cases où il n'est pas forcément dans les bonnes pratiques, ça sera plus difficile de convaincre des émetteurs, des investisseurs. Après, on le voit aussi avec l'arrivée sur le marché d'un certain nombre de social bonds, de green bonds, de sustainability link bonds. Et là, c'est quand même très, très intéressant parce que dans les sustainability link bonds, ça veut dire que le coupon donc, qui sera versé est dépendant d'indicateurs qui seront atteints. D'accord. Et si la performance n'est pas au rendez-vous, il y aura une augmentation du coupon. L'émetteur, il y est forcément très sensible, mais l'investisseur aussi. Donc s'il a envie d'accompagner un émetteur dans la durée, c'est quand même un très bon outil. Et après, la mise en place des bonnes pratiques, et peut-être ce sur quoi j'insisterai, c'est que notre conviction, nous, c'est que le pilier gouvernance est le plus important. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est le management, ce sont les organes de gouvernance qui infusent, qui impulsent les bonnes décisions ou la mise en place des bonnes politiques. Et donc, progressivement, j'allais dire, c'est en ça que... on concentre une partie de notre analyse sur ce pilier-là, avec la conviction que si on estime que le management, il y a, respect du pouvoir des minoritaires, mais il y a aussi des contre-pouvoirs. Ce n'est pas seulement des femmes dans les boards, des indépendants. Ça va bien, bien au-delà de ça. Donc là, on verra qu'il y aura de la performance extra-financière qui amènera de la performance financière.
Voilà, performance extra-financière, c'est vrai que c'est très important, mais il ne faut pas en oublier la performance financière. Je crois qu'il y avait un débat, c'est vrai, il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on a vu que, comme le disait Carole, dans le long terme, les fonds ISR n'ont pas à rougir, hein, justement, au niveau des performances. Ils ont même été plutôt très résilients dans la période de crise qu'on vient de connaître, Valentin Vigier.
Oui, je pense que la littérature sur le sujet maintenant fait quasiment l'unanimité. Il montre justement le lien entre performance extra-financière et performance financière. On a justement même fait une étude, nous, à la financière de l'échiquier, qui s'appelle étude ISR et performance by LFDE, sur lequel on montre que sur le long terme, les émetteurs qu'on a le mieux notés d'un point de vue ESG surperforment les moins bien notés. Et comme vous l'avez dit, justement, en période de crise, comme on a pu le voir cette année dans l'étude de 2020, les émetteurs les mieux disant sur l'ESG sont aussi ceux qui ont le mieux résisté pendant la forte baisse et qui en plus on va dire repris la reprise de manière très forte après ça. On s'est reparti.
La récompense finalement d'une certaine vertu, Anne-France, c'est pas mal.
Oui, mais je trouve ça normal. C'est difficile de toute façon. Si on a des grèves partout dans son entreprise, c'est difficile d'être performant. Donc il est évident qu'il faut s'intéresser à la gouvernance d'une entreprise. Enfin, c'est juste logique que les employés, s'ils ne sont pas respectés, s'ils sont écrasés, etc., ils ne peuvent pas être performants. Donc c'est juste normal, en fait.
Et il nous reste quelques minutes, j'ai envie de poser la question, puisque c'est bien, vous notez les uns les autres. Est-ce que vos sociétés appliquent des mesures justement pour la transition écologique ? Comment ça se passe chez vous, finalement, cette transition ? Comment elle est vécue ? Et est-ce que vous faites des petits gestes, vous aussi ? Vous mettez aussi en exemple, même si vous gérez certes des milliards, mais vous n'êtes pas une grande entreprise, ou en tout cas les grandes entreprises du tertiaire.
Alors nous, on a envoyé le Covid, comme ça il n'y a plus de déplacement. Non, je rigole. C'est difficile à voir quand on est tous chez soi, bien évidemment. Ouais. En revanche... les bureaux, voilà. Bien évidemment, tout le papier est recyclé. On a les polices de caractère, vous savez, avec les petits points, ce qui fait qu'on économise quand même deux tiers d'encre à chaque fois. Des gobies. Il n'y a plus, bien sûr, de gobelets, ni en plastique, ni en carton, ni tout ça. Et tous ces gestes du quotidien, oui, tout à fait, on le fait. Mais ça, c'est presque facile. C'est presque facile. C'est pas ça qui fait l'essentiel. On a aussi travaillé avec Pascal Bossan, que vous connaissez peut-être, qui a fait un petit livre sur comment préserver le climat, même dans une petite entreprise. Donc, on a essayé de mettre en place tous ces éléments-là.
Elle dit que tous les petits gestes comptent et qu'il faut le faire, même pour une entreprise. C'est pas parce qu'on ne fait pas des machines-outils tous les jours qu'on ne pollue pas. Donc, il faut y faire attention. Qu'est-ce qu'on fait chez Arkea Investment Services ?
Alors, chez Arkea Investment Services, ça regroupe plusieurs entités. Mais c'est vrai que dans l'entité à Brest... Arkea IS ou Fédéral Finance Gestion, le covoiturage, c'est quelque chose qui est plébiscité. Tout ce qui est, effectivement, on a éliminé aussi les mugs, on privilégie les fontaines à eau. Enfin voilà, c'est des petits gestes au quotidien sur le papier recyclé. À Paris, on n'utilise pas sa voiture. On se déplace en transport en commun, en vélo.
Ne serait-ce que pour tenir des délais de sa réunion. Il vaut mieux pas.
Non, mais les transports en commun ou le vélo. En tout cas, chez Shell Charpin Gestion à Paris, le vélo, la marche à pied, c'est des choses qui se sont beaucoup développées. Vous voyez plein de casques, un peu moins en ce moment, parce qu'on est quand même un peu confiné, mais il y a le télétravail. Mais oui, c'est des prises de conscience fortes.
Valentin Vigier, chez vous, financière.
On a fait également une politique RSE justement pour réduire l'impact, on va dire, de notre propre périmètre, même si c'est vrai qu'en tant qu'asset manager, la majorité de l'impact provient de nos investissements. Donc, c'est vrai qu'on mesure l'empreinte carbone de nos fonds, ce qui est important. Mais sinon, à notre échelle, on a également mis en place des actions comme sur le recyclage, notamment. On a un partenariat avec les joyeux recycleurs qui permet justement d'avoir un meilleur tri et une meilleure...
Les joyeux recycleurs.
Exactement.
Ouais. Tout un programme.
Une meilleure gestion des déchets. Et on a également en disposition une flotte de vélos. Enfin, en tout cas, la société nous aide pour l'acquisition d'un vélo électrique.
Voilà, pour nos déplacements. Ok, bon, c'était plus anecdotique. Vous avez un peu développé le sujet, Anne-France, mais c'est vrai que j'ai envie de vous poser la question de nos spécialistes. Est-ce que la crise sanitaire qu'on connaît actuellement, parce que malheureusement elle n'est pas finie, a accéléré une certaine prise de conscience, Carole Imbert ?
Accélérer une prise de conscience et peut-être aussi accélérer la réflexion autour de nos gammes. Donc ce n'est pas juste une pression réglementaire, c'est vraiment aussi une prise de conscience de l'environnement actuel, oui. Donc aller vers davantage de produits à impact. Alors on a les objectifs du développement durable qui sont un bon cadre de lecture, faire bien ses choix. Et on ne peut pas par contre aller sur tous les impacts. Donc il faut qu'on soit sélectif, que ce soit cohérent avec notre positionnement, avec notre métier. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui... Mais c'est le début.
Ouais, qui infuse et qui continue. Finalement, même question. La crise a pu, vous avez vu, des déclics peut-être se faire, soit à l'intérieur de la société, soit vis-à-vis de vos partenaires.
Je pense que même de manière générale, les questions de la crise écologique, de l'accroissement des inégalités sont quelque chose, des idées qui font leur chemin dans la conscience collective. Et donc quand on voit également que la crise a... les épargnants épargnent de plus en plus là, pendant la crise et vont continuer à le faire... Par un peu, on dirait, crainte de l'avenir, bah, quand vous combinez ça, ça donne envie justement d'avoir des produits plus durables. Et donc c'est vrai qu'on renforce toute notre gamme sur la prise en compte de ce critère et on développe également voilà, les produits d'impact. Que ce soit donc, on a notre fonds Échiquier Positive Impact qui est donc dont le but est d'atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU ou alors Climate Impact. Pour la transition écologique.
Eh ben c'est noté. Voilà en tout cas un panel de fonds qu'on peut commencer à regarder. Anne-France Gauthier, on termine avec vous. Pas sur la crise, parce qu'on sait qu'elle est pénible, surtout pour vous qui avez besoin d'être au contact de vos équipes. Ça vous manque, évidemment. Néanmoins, on peut se dire que voilà, ça a peut-être servi, dans cette période difficile, à ce qu'il y ait des avancées dans bon nombre de sociétés de gestion et au-delà, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est les sociétés de gestion, mais derrière les investissements, les entreprises qui sont en train de, quand même de d'opérer cette prise de conscience et ce virage vers la transition environnementale.
Oui, tout à fait. Et je pense que ça va continuer. Par exemple, on voit bien, les entreprises vont favoriser le télétravail. Alors, pas toute la semaine, bien sûr, mais je pense qu'on va favoriser ce qui fera moins de déplacements, donc moins de carbone, etc. Donc je pense que oui, c'est beaucoup plus que du greenwashing. Il y a eu une vraie prise de conscience. Et puis dans ces périodes où on n'a pas beaucoup de loisirs, quand même, il faut bien le dire, on est plus heureux de faire des choses qui ont du sens que de faire des choses qui ne servent à rien.
Donc oui, on peut épargner en cohérence avec ses valeurs et ses convictions, c'est ce qu'on va retenir. On va retenir également qu'il n'y a pas d'opposition entre épargne justement sur ses fonds et une certaine performance, bien au contraire, même si les labels sont là, on a aussi de la pression réglementaire, mais aussi une vraie prise de conscience des sociétés de gestion, qu'il faut faire quelque chose pour la planète. Et oui, c'est possible effectivement d'avoir son épargne qui travaille à ce grand œuvre. Merci à tous, merci Valentin Vigira, je rappelle que vous êtes analyste ISR, la financière de l'échiquier, merci Carole Imbert, responsable la recherche financière et extra-financière d'Arkea Investment Services. Anne-France Gauthier, merci.
Merci, Fabrice.
Directeur commercial de Vie Plus. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Vie Plus, Sens et Conviction.
Vie Plus, Sens et Conviction, une émission en partenariat avec Vie Plus, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.